Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, l'héritage, ça se mérite. Attention, sujet sensible politiquement, celui de la fiscalité sur les successions. Pas seulement parce qu'il s'agit de fiscalité, mais aussi, et peut-être surtout parce qu'il touche à un des fondements de notre société depuis la Révolution, les modalités de transmission du patrimoine. Les études en attestent, les Français sont très attachés à cette conception de l'héritage qui veut que le patrimoine reste, à moindre frais, dans la famille. Comme le disait Nicolas Sarkozy en 2007, quand on a travaillé dur toute sa vie, qu'est-ce qui donne du sens à la vie ? C'est de faire que ses enfants commencent un peu plus haut que soi-même, on a commencé. Problème, comme le dit le proverbe, l'argent va à l'argent. L'héritage renforce les inégalités sociales et générationnelles. Les promesses de mobilité sociale se heurtent à cette réalité. Alors pour y remédier, deux think tanks ont récemment proposé des réformes. Le premier, Terra Nova, suggère de revoir la fiscalité du patrimoine pour augmenter son rendement. Le deuxième, Génération Libre, de supprimer la réserve héréditaire pour permettre au futur défunt de léguer sa fortune à qui il l'entend, quand bien même il le ferait au détriment de ses enfants. À vrai dire, ces pistes ont bien peu de chances d'aboutir à court terme. Emmanuel Macron l'a dit la semaine dernière lors du débat face aux intellectuels. Il n'a pas l'intention de sacrifier son capital politique sur l'autel d'une telle réforme. Pour autant, la question devra bien finir par être posée politiquement. Alors l'héritage, est-ce que ça se mérite ? C'est la question du soir en compagnie de trois invités. Pauline Grégoire-Marchand, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice des études et prospectives du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, ancienne chef de projet à France Stratégie. Vous travailliez à l'époque notamment, enfin c'est pas si vieux que ça d'ailleurs, sur les questions d'inégalité. Vous avez notamment signé une étude l'an dernier, au mois de janvier 2018, sur la fiscalité des héritages. Pour discuter avec vous, Daniel Borio, bonsoir.
Bonsoir, Bernadette.
Vous êtes juriste, chercheur associé au CNRS. Vous travaillez notamment sur les questions de bioéthique. Vous êtes expert pour le think tank Génération Libre, think tank libéral dont j'évoquais l'étude récente. Et vous allez publier ces jours-ci « Disposer de son corps, un droit encore à conquérir » aux éditions textuelles. Et puis notre troisième invité est en duplex des studios de France Bleu à Montpellier. Il s'agit de Sybille Golac. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue au CNRS, spécialiste des relations économiques et juridiques au sein de la famille. Je renvoie à un de vos ouvrages, Histoire de famille, les récits du passé dans la parenté contemporaine, que vous avez publié aux éditions de la rue d'Ulm. C'était en 2015. Alors j'ai évoqué, Pauline Grégoire Marchand, votre passé à France Stratégie, une note que vous avez faite il y a un an, il y a deux ans, il y avait eu une autre note, également publiée par France Stratégie, intitulée « Peut-on éviter une société d'héritiers ?» Le risque à l'époque était évoqué, la conclusion c'était de dire « on n'est pas encore dans cette société d'héritiers, mais on s'en rapproche ». Est-ce que deux ans après, on s'en rapproche encore un peu plus ?
Oui, le constat est toujours le même, effectivement, sur les enjeux d'inégalité de patrimoine qui sont très fortes, et notamment par les donations et les héritages, puisque les flux successoraux, donc l'ensemble de patrimoine transmis par an, a été multiplié par deux en 15 ans. Aujourd'hui, c'est 240 milliards, enfin en 2015, donc 10% du PIB. Et en même temps, on a la moitié des Français qui n'héritent pas ou de presque rien, et à l'inverse 10% qui héritent plus de deux tiers de cette richesse transmise chaque année.
Donc c'est un phénomène qui augmente. Vous faites le même constat, Sybille Golac ?
Oui, je fais le même constat. Enfin, je m'appuie sur les travaux notamment de Thomas Piketty, qui a mis en valeur l'augmentation du poids de l'héritage dans l'économie française, qui est en train petit à petit de se rapprocher du niveau qu'il avait à la fin du 19e siècle, avant la mise en place des impôts sur le revenu, sur les successions, sur le patrimoine.
Il y a d'ailleurs, alors on pourrait citer d'autres auteurs, mais c'est vrai que toutes les études convergent vers ce constat-là. Il y a aussi Nicolas Frémaux qui a publié dernièrement Les Nouveaux Héritiers au Seuil, qui dit par exemple que dans les années 70, on avait 30% de chances de faire partie du 1% le plus fortuné grâce à ses revenus du travail. Aujourd'hui, c'est 14%, c'est-à-dire deux fois moins de chances, ce qui veut dire que le patrimoine dont on hérite est de plus en plus important dans, on va dire, la composition de ses revenus, Daniel Borio.
Oui, effectivement, le problème de cette société d'héritiers, des rentiers, c'est qu'elle va créer à la fois un blocage patrimonial, comme vous l'avez souligné, Mais peut-être, ce qui est le plus grave, c'est qu'il y a un type de blocage ou un effet psychologique. C'est-à-dire que on va créer dans la tête des enfants un statut des créanciers. C'est-à-dire, je suis là dans l'attente de pouvoir hériter de mes parents un certain nombre des biens qui vont me permettre de vivre mieux de ce que je vis aujourd'hui. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on hérite de plus en plus tard. On hérite presque à 60 ans, c'est-à-dire que l'héritage est devenu presque une sorte de supplément ou de complément retraite.
Oui, c'est ce que j'allais vous rétorquer, Daniel Borio. C'est-à-dire que cette attente que l'on crée peut-être chez les enfants, ce sont des enfants qui sont de plus en plus âgés quand
absolument,
même.
Absolument, absolument. Et que, en fait, vous voyez, il y avait l'autre fois, j'avais lu une décision de justice où la personne s'est plaignée que son père avait vécu presque 102 ans et qu'il avait déjà 80 ans et qu'il n'avait pas encore hérité. Donc, vous voyez, j'imagine passer 80 ans de la vie à attendre un héritage ne crée pas une société d'entrepreneurs.
Ça crée aussi des inégalités qui ne sont pas uniquement des inégalités sociales, mais aussi des inégalités générationnelles, c'est-à-dire des jeunes qui sont dans l'attente justement peut-être de cette transmission de patrimoine, Pauline Grégoire Marchand, et des personnes plus âgées qui détiennent ce patrimoine et qui n'en font peut-être pas le même usage qu'elles en auraient fait lorsqu'elles étaient actives.
Alors, il y a effectivement l'enjeu générationnel. Après, ce ne sont pas tous les enfants qui peuvent attendre un héritage. Nous, dans notre enquête, on avait seulement 50% des personnes qui déclaraient attendre un héritage. Un tiers avait déjà hérité et seulement 50% en attendaient un. Donc, ça ne concerne que les enfants des personnes les plus riches. Et donc, l'enjeu, c'est pas uniquement la répartition générationnelle et la répartition dans la famille, mais bien la répartition des richesses dans l'ensemble de la société avec ce poids de succession qui renforce ces inégalités. Et sur l'élément générationnel, donc effectivement, ça crée d'importantes inégalités et avec le sujet de si j'hérite de plus en plus tard, peut-être que cet argent, il sera pas bien réinjecté dans l'économie pour des investissements, etc. Mais si ce sont uniquement les enfants des familles les plus riches qui réutilisent cet argent-là, on ne règle pas le problème des inégalités entre tout individu.
C'est quoi l'inégalité la plus problématique pour vous, Sybille Gola, qui est générée justement par ce phénomène qui consiste à voir les revenus du patrimoine prendre de plus en plus de place en moyenne par rapport aux revenus du travail?
Alors, je vais répondre à votre question dans un instant. D'abord, je voulais ajouter sur les inégalités et le fait d'attendre son héritage. Ce qui renforce encore les inégalités, c'est que dans les milieux les plus aisés, on attend moins son héritage. C'est des milieux dans lesquels on pratique plus souvent les donations, on anticipe en fait les transmissions, voire on transmet à ses petits-enfants. Le patrimoine est suffisamment important pour à la fois avoir de côté ce qui est nécessaire pour assurer ses vieux jours, donner à ses enfants et à un âge plus précoce que la moyenne des héritages qui arrive à 50 ans, et donner aussi à ses petits-enfants au moment où ils se lancent dans la vie active.
Pour quelle raison d'ailleurs ? Parce que ça demande des compétences, disons techniques et juridiques, que l'on peut avoir peut-être quand on a plus d'argent, parce qu'on peut par exemple se faire assister par un avocat fiscaliste.
Alors tout à fait, quand on a plus d'argent, on se fait assister par des avocats fiscalistes, on a son notaire, donc en fait, on a un gestionnaire de fortune, donc on a tout un tas de professionnels qui vont se mettre au service des familles les plus aisées pour les aider justement à gérer au mieux ces transmissions, les gérer au mieux à la fois pour les transmettre le mieux possible, mais aussi les gérer au mieux d'un point de vue fiscal, c'est-à-dire pour échapper le plus possible au fisc. Par ailleurs, il y a une inégalité sur laquelle je voudrais insister, dont on parle moins, qui est l'inégalité entre hommes et femmes. Nicolas Frémaux a également travaillé avec Marion Le Turc sur les inégalités de patrimoine entre hommes et femmes. Et ces inégalités de patrimoine, en 98, elles étaient de l'ordre de 8-9%, et en 2015, elles sont de l'ordre de 18%. Alors c'est à la fois, donc en fait c'est comme toutes les inégalités de patrimoine, ces inégalités se sont renforcées et elles sont notamment liées au mécanisme de transmission, c'est-à-dire que quand on va observer chez les notaires, dans les familles, comment se passent les successions, eh bien on se rend compte qu'il y a des individus dans les fratries qui occupent une place un peu particulière, à qui on va transmettre les éléments clés du patrimoine, typiquement les entreprises, les maisons de famille, et que ces héritiers privilégiés, eh bien, ce sont avant tout les hommes et en particulier, y compris de nos jours, on le voit statistiquement dans des enquêtes comme l'enquête patrimoine de l'INSEE, davantage les aînés que les cadets.
Et ça, ça tient. Ça tient, Pauline Grégoire Marchand, à la fois aussi aux nouvelles compositions des familles et aussi, j'imagine, aux inégalités salariales qui persistent entre les hommes et les femmes.
Alors, en tout cas, concernant justement les travaux de Marion Le Turc et Nicolas Lafrimo que citait Sybille Golac, effectivement, ce sujet-là des inégalités femmes-hommes de patrimoine, donc il y a d'une part toutes les pratiques que est en train de décrire Sybille Golac et qu'elle décrira mieux que moi, mais il y a effectivement des évolutions où le fait qu'on se marie de plus en plus tard, les divorces sont plus nombreux et on ne se marie plus sous les mêmes régimes juridiques, enfin, ce que souligne Nicolas Lafrimo et Marion Le Turc, c'est l'augmentation des mariages en séparation de biens, et donc cela conduit en fait à avoir une évolution de la répartition du patrimoine dans le couple et donc par les individus. Et on a plutôt quand même une diminution des inégalités de revenus hommes-femmes. Mais en revanche, au niveau du patrimoine, à la limite, une tendance à l'augmentation entre les inégalités femmes-hommes de patrimoine.
Daniel Borio.
Oui, aussi, je pense qu'il y a une autre forme d'inégalité qui est liée à la transmission d'un patrimoine plus immatériel, de ce que Bourdieu avait appelé le capital culturel, qu'on peut hériter d'une manière qu'on voit pas. Vous voyez, donc tout ça n'est pas de l'ordre du patrimoine, n'est pas de l'ordre du matériel, c'est-à-dire on va pouvoir hériter d'un réseau, d'une éducation, d'un savoir-faire, d'un goût, etc., etc. Et tout cela fait partie également de cette distance entre quelqu'un qui a pu et bénéficier de tout cela et de surcroît bénéficier également une masse patrimoniale. Et ça, je pense que il y a une égalité des hommes et des femmes de pouvoir bénéficier de cette patrimoine culturel et une inégalité qui est liée en fait, après, même si on peut taxer, si on peut supprimer la réserve héréditaire, si on peut rectifier les tirs de toutes les inégalités, il y aurait quelque chose qui est de l'ordre d'une inégalité incorporée par le capital culturel.
Alors venons-en justement à cette question de la réserve héréditaire. On a fait le constat, bon c'est un peu rapide évidemment, ça mériterait une émission à part entière, mais il faut aussi qu'on avance un petit peu dans la réflexion. Cette idée, cette proposition de Génération Libre, dont vous êtes un des experts, Daniel Borio, de supprimer la réserve héréditaire. La réserve héréditaire, c'est la part du patrimoine du défunt que la loi oblige à répartir automatiquement au sein de la famille. Donc une partie, oui. Voilà, de ce patrimoine, on n'a pas le choix, on le transmet. Alors quand on a des enfants, c'est aux enfants, et en fonction du nombre d'enfants, on en transmet telle proportion, la moitié, les deux tiers, les trois quarts, en fonction de la composition de la famille. Pourquoi est-ce que vous voulez supprimer cette réserve héréditaire? En quoi ça répond au constat qu'on fait de ces inégalités de plus en plus grandes?
Parce qu'en fait, évidemment, on peut esquiver tout ça quand on a les moyens de pouvoir se payer des avocats, des fiscalistes, même des domiciliés à l'étranger, bon, même avec les assurances vie. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les techniques, mais la plupart des gens ne peuvent pas le faire. Et ce qu'on s'aperçoit, nous, à Génération Libre, c'est qu'en fait, on devrait aller vers une société à la fois qui va libérer le travail, une société qui ne soit pas une société des rentiers ou d'héritiers, mais une société du mérite par le travail, et aussi, on imagine une société beaucoup plus fondée sur l'individualisation des droits. Alors qu'au fond, le problème de la réserve héréditaire, c'est qu'on crée une espèce de patrimoine familial. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'appartient pas aux individus. C'est comme si la famille était un sujet des droits qui était donc dépositaire de cette masse, de cette dévolution successorale qui appartiennent effectivement aux générations futures. Et donc, la personne, une fois que la personne meurt, ne dispose pas. Et donc, on croit qu'il y a un problème aussi des libertés et que cette absence des libertés crée des absurdités. Par exemple, le fait que en France, des grandes fortunes ne peuvent pas, à cause de la réserve héréditaire, faire de donations à des sociétés philanthropiques, comme on propose les grandes fortunes américaines. Si vous voulez, on peut revenir à cette proposition.
On va y revenir justement et voir, essayer d'estimer les effets que ça peut avoir. Mais en tout cas, donc pour résumer, on va dire que, je vais prendre mon cas. J'ai deux enfants, je suis pas une grande fortune, je ne crois pas en tout cas. Mais si on supprime la réserve héréditaire, je peux donc décider de léguer 100% de ma fortune, soit à mon fils, soit à ma fille, soit à quelqu'un qui est totalement étranger à la famille. J'aimerais savoir ce qu'en pensent et Sybille Golac et Pauline Grégoire Marchand. Sybille Golac.
Alors, on a des exemples en fait concrets de l'exercice de la liberté testamentaire aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Eh bien, aux États-Unis, on se rend compte que la très grande majorité des transferts, dans des proportions très équivalentes à la France, hein, plus de 90% des transferts successoraux vont aux enfants. Des légataires. C'est-à-dire même dans un contexte de liberté testamentaire, donc différentes enquêtes à la fois quantitatives mais aussi par entretien montrent que les gens se sentent le devoir de transmettre à leurs enfants et que les enfants attendent de recevoir un héritage. Donc de ce point de vue-là, la suppression de la réserve héréditaire, il est absolument pas certain qu'elle changerait quoi que ce soit à l'idée que le patrimoine n'est pas un patrimoine individuel mais un patrimoine familial.
Mais peut-être Sybille Golac le font-ils en distribuant différemment au sein de leur famille leur patrimoine, peut-être en donnant davantage aux enfants qu'ils considèrent comme les plus méritants par rapport aux autres.
Alors là-dessus, les distributions paraissent relativement égalitaires, à peu près comme dans les statistiques françaises. C'est-à-dire qu'on relève quelques inégalités, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand on va regarder dans le détail, il y a des différences significatives entre frères et sœurs, entre aînés et cadets, mais qui sont relativement à la marge. C'est-à-dire quand même le principe, en tout cas dans ce qu'on déclare dans les enquêtes, c'est plutôt d'être équitable entre les enfants. Ce qu'on sait, c'est par des études notamment de Deschaux et Herpin sur l'ensemble des transferts économiques, c'est-à-dire qui regardent à la fois les héritages mais aussi les dons plus informels dans les fratries, c'est que quand ces dons sont inégalitaires, c'est plus souvent l'enfant qui réussit le mieux reçoit davantage que les autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que celui qu'on est en train d'appeler méritant, l'héritier méritant, c'est celui qui réussit le mieux, qui a la position professionnelle la plus élevée, le salaire le plus élevé. Si vous regardez du coup ce que ça peut produire, si on libère en fait complètement le cadre juridique de ce point de vue-là, ce que ça peut produire sur les inégalités entre hommes et femmes, c'est un petit peu inquiétant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que déjà dans les familles, il y a un côté, c'est mon fils qui a plus l'étoffe pour reprendre l'entreprise. Hein. 13% des chefs d'entreprise de 10 salariés et plus sont des hommes. Donc c'est mon fils qui a plus l'étoffe, qui réussit mieux. Donc c'est plutôt à lui qu'on va donner la maison parce que sinon, les filles risquent de la vendre parce qu'elles risquent d'être dans le besoin, notamment si elle divorce. Donc en fait, toutes ces inégalités qui ont été décrites tout à l'heure par Pauline Grégoire Marchand, le fait qu'il y a des inégalités de salaire qui vont produire des différences de patrimoine plus importantes parce qu'on se marie plus tard, qu'on se marie moins en communauté de biens et qu'on divorce, cette fragilisation des patrimoines féminins va se traduire par précisément le fait que les femmes vont moins qu'avant encore, apparaître comme la bonne héritière, celle qui est méritante et qui font récompenser. Et
donc pour vous, en tout cas, Sybille Golac, pardonnez-moi, je vous interromps aussi pour qu'on puisse bien faire circuler la parole, pour que les interventions des uns et des autres soient pas trop longues. Mais en tout cas, on comprend que non seulement vous ne voyez pas ça comme quelque chose d'utile, mais plutôt comme un facteur aggravant de certaines des inégalités. Je vais évidemment redonner la parole à Daniel Borio, qui va vouloir vous répondre. Mais vous, Pauline Grégoire Marchand, comment est-ce que vous vous situeriez dans ce débat sur la suppression de la réserve héréditaire ?
Effectivement, en complément de ce que disait Sybille Golac sur justement les enjeux d'inégalité de patrimoine femmes-hommes et les nombreuses études constatent que même quand c'est moins contraint, quand on la supprime, la répartition familiale, le fait de privilégier ses enfants n'est pas remis en cause. Donc c'est vraiment l'exemple effectivement américain. Juste en complément peut-être aussi, c'est déjà dans le système français, il y a quand même quelques libertés avec la quotité disponible, le statut spécifique des assurances-vie et leur fiscalité qui n'est pas la même dans le type de taxation et des prises en compte différentes des liens de filiation.
Voilà, parce qu'il faut rappeler que quand on hérite, alors il y a cette part incompressible, disons, qui est dévolue a priori aux enfants quand on en a, et puis il y a une autre part qui peut être faire l'objet d'un héritage, d'un testament, et là on a le droit de choisir. Voilà,
exactement, dont le défunt dispose librement et qui dépend du nombre d'enfants.
Il y a une semi-liberté, on va dire.
Voilà, si vous avez un enfant, il y a la moitié, si vous avez deux enfants, un tiers, donc il y a déjà une semi-liberté quand même, et le sujet c'est surtout si on revoit cette architecture de la fiscalité des transmissions, comment on modifie les taux. C'est surtout ça aussi, si on remet en cause la réserve héréditaire, est-ce que on en fait aussi une baisse générale de la taxation des transmissions? Est-ce qu'on revoit les taux? Est-ce qu'on revoit les systèmes d'abattement? Les nombreuses exonérations, etc., qui existent avec les assurances-vie, c'est aussi ça le sujet, surtout.
Oui, mais il y a quand même des exemples qui peuvent paraître assez séduisants. Il y a eu cette campagne en 2010 de The Giving Pledge, avec justement Bill Gates, Warren Buffett, c'est-à-dire de grandes fortunes américaines qui ont décidé justement de léguer l'essentiel de leur fortune à des œuvres, à des organisations, à faire de la philanthropie. Et ils ont fait aussi campagne pour que les Américains les plus riches se délestent de l'essentiel de leur fortune. Est-ce que ça n'est pas quelque chose qui pourrait être adapté à la situation française? Ou bien est-ce que vous diriez, Pauline Grégoire-Marchand, qu'on a une culture telle de l'héritage que ce serait compliqué à dupliquer chez nous?
Ça semble assez, dans les premières analyses, là, par exemple, c'est pas tout à fait l'héritage du coup, mais sur la réforme de l'ISF et l'évolution des dons aux associations et organisations caritatives, ça peut donner un argument où on pense que du coup, ça aurait peu de chances d'aller dans ce sens-là. Il y a après toutes les questions de relations entre philanthropie et plus le rôle de l'État dans son intervention dans les systèmes de protection sociale et la redistribution des richesses avec les travaux de Nicolas Duvaux là-dessus. Et nous, dans notre étude qu'on avait fait à France Stratégie sur l'opinion des Français sur la taxation des transmissions, on leur demandait sur une échelle de 0 à 10 qui est-ce que vous voulez taxer le moins et taxer le plus. Donc on retrouvait vraiment donc le moins le conjoint, les enfants, puis neveux et nièces, et en avant-dernier, avant extérieur à la famille, les associations, etc. Donc c'était pas du tout quelque chose qui était cité en premier par les Français à ne vouloir peu taxer les associations, alors que c'est exonéré actuellement en plus.
Est-ce qu'il n'y a pas une grande différence de culture entre la culture anglo-saxonne, Daniel Borio, et la culture française qui fait que si on supprimait la réserve héréditaire, eh ben on aggraverait peut-être les inégalités et que l'argent n'irait pas justement vers des associations qui mériteraient de...
Je manie pas les mêmes sources, mais en tout cas ce qui me semble très intéressant, c'est de voir à la fois les conservateurs et les féministes s'attaquer en fait à notre proposition de supprimer la réserve héréditaire. Et c'est très intéressant. La France est un pays très catholique. Vous savez, à la fois Montesquieu avait dit que l'héritage est du droit civil, mais les papes Pie XI, dans l'encyclique Quadragesimo Anno, avait dit que l'héritage, c'est du droit naturel et on ne touche pas. Donc c'est très intéressant parce que dès que l'on propose quelque chose, les voix s'élèvent en disant non, surtout pas, ne pas toucher à la réserve héréditaire, alors que la réserve héréditaire, même si c'est symbolique, même si c'est quelque chose qui évidemment après, peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans d'analyse sociologique, on verra pas les effets, parce qu'en fait la loi est très modeste, elle n'échange pas la réalité sociale. Peut-être qu'elle la change, mais peut-être qu'elle ne la change pas. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir que on a vu avec l'héritage de l'histoire de Johnny Hallyday, dans ce qui avait produit donc comme émotion publique en France, le fait que quelqu'un avait laissé à ses enfants tout son héritage, des points de vue culturel, une grande éducation, et puis après avait décidé que ses enfants adoptifs allaient recevoir le reste, ça avait déclenché presque donc une lutte diplomatique entre la France et les pays affreux pays anglo-saxons, qui, eux, disposent librement de leurs biens et les défunts peuvent décider librement à qui ils laissent sa fortune.
Oui, mais je vais vous prendre un autre exemple, Daniel Borio. La disparition récente du couturier Karl Lagerfeld. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est précisément de la transmission de son patrimoine, mais il était dit que c'était sa chatte, Choupette, qui allait hériter de sa fortune. Alors, je ne sais pas s'il relevait justement d'un autre droit que le droit français sur l'héritage. Bon, enfin, en tout cas, si la suppression de la réserve héréditaire, ça revient aussi à ce genre de comportement, on peut comprendre qu'il y a un certain conservatisme, on va dire.
Vous imaginez bien que si c'est pas tout à fait le cas, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais là, les grands gagnants de l'histoire de Choupette, c'est l'État. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas beaucoup d'abattement pour les chats en matière d'évolution successorale. Donc en fait, c'est l'État qui va récupérer les 60% de l'héritage de Karl Lagerfeld. Mais ce qui est intéressant là, c'était de dire je fais avec ce que j'ai gagné, parce que Lagerfeld est vraiment le personnage qui s'est fait lui-même, ce que j'ai gagné, je les laisse à qui je veux, et si je veux laisser ça à ma chatte, je les laisse à ma chatte.
France Culture. Du grain à moudre, Hervé Gardette.
L'héritage, est-ce que ça se mérite? C'est la question que nous posons ce soir à Daniel Borio, qui est juriste, expert pour le think tank libéral Génération Libre, qui vient de publier une note en faveur de la suppression de la réserve héréditaire, en compagnie également de Pauline Grégoire Marchand, directrice des études et prospectives du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qui, dans une autre vie, avait signé une note sur la fiscalité des héritages pour France Stratégie, et Sybille Golac, qui est dans les studios de France Bleu Héros à Montpellier, qui est sociologue au CNRS, spécialiste des relations économiques et juridiques au sein de la famille. Sybille Golac, peut-être une réaction à ce qui vient d'être dit sur le caractère notamment très conservateur des Français par rapport à l'héritage. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? C'est quelque chose qu'il faut assumer et quelque chose qu'il faut peut-être aussi défendre selon vous?
Alors, je pense qu'on peut effectivement faire le constat, hein, l'étude de France Stratégie, notamment sur les opinions sur la taxation de l'héritage, l'a montré, d'un conservatisme et d'un attachement des Français à l'héritage. Pour ce qui est de renvoyer dos à dos conservateurs et féministes...
On peut être les deux à la fois.
Là, il me semble qu'il y a un malentendu. On peut tout à fait être les deux à la fois, mais c'est une chose d'être contre la liberté testamentaire et une autre de dire tout ce qu'on peut faire, c'est la pratique de la réserve héréditaire. Une troisième possibilité, par exemple, c'est la suppression de l'héritage. Une autre possibilité, c'est l'augmentation très forte de la taxation de l'héritage, qui permettrait d'éviter davantage la transmission, le maintien de la richesse dans les mêmes familles. Par ailleurs, là-dessus, je voudrais insister, ce que je racontais tout à l'heure sur les risques de la liberté testamentaire par rapport aux inégalités hommes-femmes, ce sont des mécanismes qu'on voit déjà à l'œuvre aujourd'hui, alors que cette liberté testamentaire n'existe pas. C'est-à-dire, comme ça a été dit, il existe déjà beaucoup de marge de manœuvre pour produire de l'inégalité à la fois à l'intérieur des familles, notamment entre hommes et femmes, et aussi entre familles, c'est-à-dire qu'effectivement les familles les plus riches maîtrisent les outils juridiques, se font accompagner de professionnels du droit pour transmettre d'autant mieux leurs richesses, tandis que les familles les plus pauvres, soit n'ont pas du tout de richesses à transmettre, soit quand elles en ont, ne peuvent pas utiliser ces outils pour les transmettre le mieux possible. Et quand je dis ça, c'est pas seulement faire de l'optimisation fiscale ou des transmissions transgénérationnelles aux petits-enfants, parce que parfois l'héritage qui est là n'est pas suffisant. C'est aussi des familles dans lesquelles la méconnaissance du droit peut parfois faire que le tout petit pécule qu'on a accumulé, par exemple, va être pris pour payer. Je pense à un cas qu'on a rencontré dans un cabinet d'avocat d'une femme qui a hérité de 5000 euros de sa mère handicapée qu'elle a gardée jusqu'à la fin de sa vie et qui sont pris pour payer la maison de retraite son ex-conjoint dont elle n'a pas divorcé parce qu'elle n'osait pas lancer la procédure, donc qui est mis en maison de retraite et au nom de l'obligation alimentaire, on lui prend cet argent parce qu'elle n'avait aucune idée en fait des enjeux juridiques de sa situation.
Alors vous avez évoqué, Sybille Golac, l'outil de la fiscalité. Sur cette question, Pauline Grégoire Marchand, comment se fait-il que, alors que, vous le disiez tout à l'heure, il y a finalement beaucoup de gens qui n'héritent pas et qui n'hériteront jamais, alors que cette circulation du patrimoine crée de fortes inégalités, renforce les inégalités, comment se fait-il que les Français, semble-t-il, si on en croit les études, soient à ce point hostiles à tout changement, y compris sur la fiscalité du patrimoine?
Oui, c'est même vraiment une des fiscalités les plus impopulaires, c'est ce qu'on avait observé dans notre étude, qui n'était pas un résultat extrêmement surprenant. Ce qu'il était beaucoup plus, c'était de voir que, quel que soit le revenu des gens, leur chance d'hériter, l'opposition était très forte. En gros, fait partie des rares questions, quel que soit le niveau de vie des personnes, elles étaient toutes opposées à la taxation et transmission. En revanche, ce qui du coup était intéressant après dans notre étude, c'est ce qu'on voyait, c'est qu'elle était très surestimée, et particulièrement surestimée par les personnes les moins diplômées, avec les plus faibles revenus. Deux exemples. On avait posé une question sur la taxation entre conjoints, entre personnes mariées ou pacsées, qui donc est nulle depuis 2007. Et en moyenne, les personnes interrogées estimaient qu'elle était de 22%. Pareil, aujourd'hui, le taux de taxation effectif, parce que donc on a souligné l'explosion des inégalités de patrimoine, souligné par les travaux de Thomas Piketty, Nicolas Frémaux, etc. Mais le taux de taxation effectif aujourd'hui, en ligne directe, il est de 3%. Et hors ligne directe, c'est 5%. Donc c'est extrêmement faible, c'est à peu près stable depuis 20 ans.
C'est une moyenne, hein.
Voilà.
On est d'accord.
Voilà, mais du coup, vous savez, beaucoup héritent moins de 100 000 euros et vous avez 100 000 euros d'abattement en ligne directe. Donc peu de gens, 50% n'héritent presque pas, et dans ceux qui héritent, c'est souvent inférieur à 100 000 euros. euros, donc vous bénéficiez d'un abattement.
Mais comment vous expliquez ce paradoxe?
Et donc, voilà. Et donc, du coup, elle était très, très méconnue. Et donc, pour revenir à ce que je disais, c'était donc le taux de taxation effectif est de 3%. Et un tiers des personnes interrogées pensaient qu'il était supérieur à 20%. Donc, d'une part, il y a quand même cette méconnaissance. Alors, on peut pas demander à chaque Français d'être expert des régimes et des systèmes de taxation, de transmission du patrimoine. Mais en tout cas, c'est très, très surestimé. Probablement lié à son extrême complexité. Et justement, les systèmes d'abattement, les exonérations. Et ce que soulignait Sybille Golac au début de l'émission, c'est que plus vous êtes riche, plus vous avez aussi un capital culturel, ce qu'on a souligné, des notaires, des avocats pour vous aider, vous allez connaître le système de taxation et comment payer le moins d'impôts possible, ce qui n'est pas le cas quand vous n'avez pas toutes ces ressources-là financières et culturelles. Et donc, il y a donc la complexité et un autre élément qui est souligné souvent dans les travaux d'André Masson, c'est un peu le paradoxe sur la question de la liberté et de la taxation du patrimoine, c'est que historiquement, les libéraux étaient plutôt pour la taxation de l'héritage, même les plus libéraux. Puis, ces dernières années, ces 30 dernières années aux États-Unis, on voit au contraire les personnes défendant une vision libérale de l'économie qui sont opposées au droit de succession et qui se sont souvent appuyées justement sur l'importance de la famille, des valeurs familiales, et qui, cet alliage un peu surprenant, a conduit à une impopularité croissante.
Ah ben on va voir ce qu'en pense un expert d'un think tank libéral. Le think tank, c'est Génération Libre. C'est vous, Daniel Borio. Et pour abonder un petit peu dans le sens de ce que vient de dire Pauline Grégoire Marchand, je voudrais évoquer cette note qui avait été adressée à l'Élysée au mois de juin dernier par trois des économistes qui ont contribué à l'élaboration du programme d'Emmanuel Macron pour la présidentielle, Philippe Aguillon, Jean Pisani-Ferry et Philippe Martin. Ils proposaient notamment, dans les petits rectificatifs qu'ils préconisaient dans la politique économique et sociale du président de la République, une taxation plus lourde des très grosses successions avec pour compenser le relèvement du plafond de la taxation des successions, ce qui en faisait quelque chose de neutre fiscalement. Taxer plus lourdement les très grosses successions, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble une piste supplémentaire intéressante, Daniel Borio?
Non, ça me semble pas très intéressant.
Pourquoi?
Enfin, nous, on a proposé autre chose, parce que, comme vous l'avez souligné, si vous taxez davantage, les gens qui ont les plus grosses fortunes ont tous les moyens pour échapper à la taxation, et ça, toutes les études le montrent. Vous allez taxer les petits héritages, pas les grands héritages. Après, sur le paradoxe, il faut voir tout cela d'un point de vue un peu anthropologique. Quand vous prenez les codes Napoléon, imaginez-vous qu'on va voir dans la présentation du code civil l'héritage comme la première forme d'acquérir la propriété. Donc, deux moyens d'acquérir la propriété. Un, l'héritage. Vous voyez ce que ça crée, cette cristallisation juridique, à mon avis, correspond à un imaginaire social qui vient de loin, qui fait que effectivement, on s'est dit, pourquoi on ne touche pas à cela? C'est parce que c'est naturel, parce que le fait que ça circule dans les huis clos familiales, ça va de soi. Et finalement, le droit n'est que la cristallisation de ces phénomènes sociaux et anthropologiques.
Oui, mais c'est quand même un droit qui s'est construit alors avec le code Napoléon et puis un petit peu avant avec la Révolution, qui était en opposition à ce qui avait lieu sous l'Ancien Régime, qui était quand même l'arbitraire, c'est-à-dire la façon dont on transmettait le patrimoine était, alors là, sous le règne de l'arbitraire, c'était le droit d'aînesse.
Du mal.
Et c'était pas forcément quelque chose sur lequel il faut revenir, sauf à être un contre-révolutionnaire, ce que vous avez peut-être remarqué, Daniel Borio.
Non, pas du tout. Non, la Révolution a fait... la réserve héréditaire, quand on la place dans la perspective historique, c'est tout à fait justifié, et c'est vraiment révolutionnaire, puisqu'en fait, c'était un moyen de disperser les patrimoines. Quand nous, on propose l'abolition de la réserve héréditaire, c'est un moyen de division, en fait, de dispersion, de la possibilité de ne pas rester dans ces huis clos et dans ce système qui ne fait pas circuler l'argent. La Révolution a fait ça, justement, avec la réserve héréditaire, parce que, justement, il y avait les droits d'aînesse, il y avait la primogéniture du mâle, du premier enfant mâle, qui empêchait que tous les autres puissent, effectivement, bénéficier de ces patrimoines, était obligé de partir, de faire autre chose. Donc effectivement, historiquement, c'est assez compréhensible.
Pauline Grégoire Marchand.
Oui, c'était juste, au contraire, la théorie économique ne dit pas du tout que si on augmente la taxation des transmissions de patrimoine, les plus riches y échapperont. D'après la théorie économique, c'est au contraire l'impôt le plus efficace. C'est donc un des autres paradoxes sur la taxation des successions. C'est que on a le débat
enfin,
sur la taxation.
Quand on a un bon avocat fiscaliste, on peut quand même,
oui,
en tout cas, limiter.
Ça ne repose pas sur des mécanismes économiques, plus sur des mécanismes sociaux et juridiques, qui est que quand vous avez un bon avocat fiscaliste, donc vous avez les ressources ressources, la connaissance, les personnes à mobiliser. Et deuxièmement, c'est notre système actuel de taxation, étant donné les nombreuses exonérations sur les systèmes de transmission d'entreprise, d'assurance vie, etc. C'est les personnes les plus aisées qui détiennent des assurances vie, qui transmettent des entreprises. Ça ne concerne pas du tout la majorité des transmissions. Donc d'une part, voilà, l'avocat fiscaliste, c'est pas lié à des mécanismes de théorie économique, c'est lié à plus des ressources sociales et à votre niveau de vie qui vous permet d'avoir accès à ces services-là. La deuxième chose, c'est justement, il y a les débats sur la taxation du stock de capital et les enjeux de mobilité du capital. Mais en revanche, la taxation des transmissions, c'est justement une de celles qui seraient les plus neutres économiquement. Et des fois, on nous donne l'argument de, alors je ne sais pas si j'anticipe là votre réponse, mais sur la double taxation, c'est de l'argent que j'ai déjà gagné, on me l'a taxé quand je l'ai gagné, et en plus, on me le retaxe au moment où je le transmets à mes enfants. Mais ça, en fait, la double taxation, on l'observe dans plein de mécanismes. Je gagne de l'argent, j'achète une baguette de pain, je paye la TVA, et donc je suis taxé deux fois. Donc, au contraire, d'après la théorie de la taxation optimale du capital, c'est justement les transmissions, la taxation des transmissions du capital qui est le plus efficace.
Oui, dans l'absolu, c'est vrai, puisque d'ailleurs, on peut... Oui, non, vous avez raison, je dis simplement qu'en pratique, on voit dans la pratique, en fait, notariale et ce qui se passe dans la réalité. Mais dans l'absolu, c'est vrai que le principe, de mon point de vue, le grand principe libéral, d'un point de vue, justement, à un moment où la société va vers les illibéralismes, c'est de dire comment se fait-il que dans une société, le travail est taxé, et ce que je reçois sans travailler n'est pas taxé. Vous voyez, donc effectivement, on peut dire, on va considérer que l'impôt juste est celui qui est un impôt qui provient de quelque chose qui n'est pas de mon effort. Hein, en l'occurrence, on devrait taxer davantage ce que je reçois et pas taxer ce que je gagne par mon travail. Je fais simplement une observation qui était d'un point de vue de la pratique notariale. Ce que nous avons proposé, c'est une piste. Il y avait d'autres fondations qui ont travaillé sur l'impôt. Mais les Français sont tellement déjà accablés par les impôts qu'on s'est dit, si on va ajouter encore un impôt, je ne sais pas si c'est politiquement le bon moment.
Voilà, la piste fiscale, c'est notamment la Fondation Terra Nova qui a publié une note également sur le sujet. Tout à l'heure, en termes de piste, Sybille Golac, vous avez évoqué l'idée d'une suppression de l'héritage. Est-ce que ça, c'est purement rhétorique, disons, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui existe, qui peut fonctionner, qui est envisageable, en tout cas, de votre point de vue ?
Alors, je suis pas là pour dire si c'est politiquement envisageable, inenvisageable. Je pense que ça serait très compliqué. Pour revenir sur la question de la fiscalité de l'héritage et de son efficacité, je pense qu'une vraie question, donc que je me pose notamment avec Céline Bessière, donc avec qui je mène cette enquête auprès des notaires, c'est aussi cette profession notariale qui est chargée à la fois de collecter l'impôt sur l'héritage, enfin qui participe à la rédaction des déclarations successorales et des actes successoraux, et qui en même temps le fait pour une clientèle, et la clientèle qui lui est la plus fidèle et qui lui rapporte le plus, eh bien c'est celle des plus fortunés et de ces héritiers privilégiés notamment qui sont les repreneurs des entreprises familiales, les notaires eux-mêmes étant pour un certain nombre des repreneurs d'une entreprise familiale. Donc ça, c'est aussi une question qu'il faut poser, c'est quels moyens on donne aussi à l'administration fiscale pour faire appliquer cette fiscalité, à quels professionnels on confie l'application de ce système fiscal. C'est aussi une question qu'on peut poser. Et par ailleurs, pour revenir sur la proposition de la liberté testamentaire. Ouais. Oui, eh bien, il s'agit en fait de dire aux gens, vous transmettez vos biens à qui vous voulez. Donc on pourrait imaginer que la reproduction sociale ne passerait plus par la famille. On a vu qu'il y a plein de raisons pour lesquelles moi j'y crois pas, mais ça n'empêcherait pas du tout le maintien de la concentration de la richesse entre les mains de quelques-uns.
Juste d'un mot, Pauline Grégoire Marchand et Daniel Borrello, puisque Sybille Golac n'avait pas voulu me répondre sur cette piste d'une suppression de l'héritage, Pauline Grégoire Marchand.
C'est tellement impopulaire, etc., que ça paraît assez compliqué. Mais en attendant, il y a plein d'autres étapes qui permettraient une meilleure répartition des richesses, et notamment du coup par une meilleure taxation, une augmentation du rendement de la taxation des successions. Peut-être comme étape intermédiaire, il y en a de très nombreuses.
Ça peut être un objectif à plus long terme, Daniel Borrio.
Il y a des sociétés archaïques, apparemment, en Australie, il y a quelques siècles. Enfin, je ne sais pas. Mais je voulais juste te dire quelque chose par rapport à la loi.
On n'est pas allé sur le terrain, aucun des trois.
Mais parce qu'en fait,
on est encore très très loin.
Bah, c'est une utopie, mais il n'y a pas.
Les utopies, elles sont.
Oui, non, mais il y a peut-être des anthropologues qui ont travaillé. J'ai connu effectivement un travail où on disait qu'il y avait une société où les gens étaient heureux parce qu'il n'y avait ni propriété, ni héritage, ni capital. Bon, mais ça, c'est. Mais moi, je vais dire, ce qui est choquant pour moi aujourd'hui, c'est quelqu'un qui voudrait laisser sa fortune à une fondation de lutte contre le cancer, par exemple, et que la loi lui empêche de faire ça parce qu'il faut qu'il laisse 3/4 de sa fortune à ses 3 enfants. Alors, c'est ça qui me semble choquant. Effectivement, c'est que sociologiquement, vous dites que ça n'arrive pas, mais le problème, c'est que ça ne peut pas arriver parce qu'il y a une barrière juridique.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Pauline Grégoire Marchand, Sybille Golac et Daniel Borillo d'avoir participé à cette discussion que vous pourrez retrouver sur notre site internet franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Cyril Marchand, Fanny Richet, Antoine Tricot, Virginie Leduo et Amélie Perrault. Émission réalisée par Peyre et Legrave avec à la prise de son Alexandre Dang et nos camarades de France Bleu Héros à Montpellier. Bientôt la dispute avec vous, Arnaud Laporte.
Toujours question d'héritage, dès qu'on parle d'art et de culture, ce sera le cas encore une fois ce soir. Le modèle noir notamment, tout en Camon, question d'héritage aussi, assez fastueux dans ce cas-là. Et puis Thomas Schutte. La question du grain à moudre demain, Hervé Gardette.
Peut-on faire la révolution sans leader ?